France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nouvel épisode de notre série consacrée à la technique. Y a-t-il eu au XXe siècle des philosophes ayant fait exception à la détestation de la technique ? Elle a été critiquée de toutes parts, la technique, dans la philosophie du XXe siècle. Le concept d'aliénation, hérité de Hegel d'abord puis de Marx, a été repris avec des réaménagements divers. Car les progrès des machines ont beaucoup inquiété, en lien avec les évolutions du capitalisme. Le travail humain allait-il devenir de plus en plus mécanique et inhumain ? Et s'il allait finir par être remplacé tout à fait par la machine ? Dans les deux cas, les lendemains paraissaient peu réjouissants. Et puis, la figure du philosophe Heidegger rôde au XXe siècle sur cette question de la technique. Dans l'une de ses quatre conférences données à Brême en 1949, Heidegger évoque le dressage de nos existences par une raison toute puissante, ce qu'il appelle l'arraisonnement. Et il tient tout ce processus pour un triomphe de la technique, jetant un voile sur ce qu'il appelle l'être. Y a-t-il des philosophes au XXe siècle qui ont échappé à ces critiques virant facilement au rejet ? Par exemple, des philosophes pour s'émerveiller encore des outils comme prolongement de nos corps et ouverture de nouvelles perspectives, ou pour juger que corriger les mots de la technique, c'est encore la technique qu'il nous faut pour le faire ? Nous allons évoquer ce matin deux figures pleines de curiosité, voire d'engouement pour la technique et les objets divers qui en sont le fruit. Deux philosophes français, Gilbert Simondon, né en 1924 et mort en 1989, et Bernard Stiegler, né en 1952 et mort en 2020. Et le plus saisissant, c'est qu'on trouve chez eux deux des traces d'un intérêt soit pour Marx, soit pour Heidegger. Bonjour à Anna Lombert.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie à l'université Paris 8. Nous vous avons reçu il y a peu de temps pour un petit livre que vous venez de faire paraître aux éditions Alia, intitulé « De la bêtise artificielle ». Mais vous publiez en même temps un autre livre aux presses universitaires de France, « Penser avec Bernard Stiegler, de la philosophie des techniques à l'écologie politique ». Et bonjour Adiris.
Bonjour.
Vous avez été de longues années professeur de Cagnes au lycée Henri IV à Paris. Nous vous recevons de temps en temps ici pour nous parler de Sartre, dont vous connaissez l'œuvre admirablement. Mais vous avez aussi écrit sur Gilbert Simondon, notamment un livre publié chez Vrin en 2018. Pour commencer notre conversation, rappelez-vous cet homme, Theodore Kaczynski, surnommé Yuna Bomber, mathématicien américain, qui s'est mis en tête de combattre la société technologique en envoyant des bombes par courrier à des personnes incarnant à ses yeux cette société technologique. Il a été arrêté en 1996, il est mort en prison en 2020, non sans avoir publié un texte justifiant son action de son point de vue. Voici un extrait de la série Manhunt, Yuna Bomber, qui a été consacré à son histoire.
Vous pensez que c'est vous qui avez le contrôle ? Qu'elles vous obéissent ? Vos technologies ? Vos machines ? Mais que feriez-vous sans votre voiture ? Votre téléphone ? Que feriez-vous si les avions arrêtaient de voler ? Il y a 10 ans, les ordinateurs étaient des jouets onéreux. Aujourd'hui, notre civilisation s'effondrerait sans eux. Vous vivez dans la peur d'une panne d'électricité, d'ordinateur, de voiture, de téléphone. Alors vous construisez votre vie, votre société, afin que cela ne se produise pas. Ce sont leurs besoins qui dictent votre vie, pas les vôtres. Ils sonnent, vous vous précipitez, ils bipent, vous répondez. Posez-vous la question. Qui exerce vraiment le contrôle ? Vous ? Ou eux ?
Yuna Bomber, qui à la fin du XXe siècle incarne tout ce qu'on reproche radicalement à la technique, il en est vraiment l'incarnation. Et bien avant lui, il y a eu beaucoup de monde pour dire qu'elle allait avoir notre peau, la technique. Anna Lombert, vous avez fait vos armes en philosophie en réfléchissant à cette question de la technique. Vous en êtes aujourd'hui une spécialiste. Qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie de cette radicalité critique si présente au XXe siècle ?
Alors, moi personnellement, je ne sais pas, mais en tout cas, les penseurs que j'ai étudiés, donc comme Gilbert Simondon, Jacques Derrida ou Bernard Stiegler, qui a beaucoup hérité de ces deux penseurs, sont des penseurs qui, je crois, sont restés dans cette attitude critique à l'égard de la technique, mais d'une manière tout à fait différente de quelqu'un comme Heidegger que vous citiez, par exemple. Parce que, si vous voulez, ce sont des penseurs, et c'est le cas de Bernard Stiegler en particulier, qui ont œuvré pour sortir des oppositions métaphysique traditionnelle entre l'humain et la machine, entre la pensée et la technique, par exemple, entre la parole et l'écriture chez Jacques Derrida, par exemple. Et donc, pour dépasser un petit peu ces oppositions et pour élaborer une pensée critique de la technique qui ne repose pas sur ces oppositions binaires, en fait. Et c'est, je crois que c'est ce qui est très précieux, parce que pour quelqu'un comme Bernard Stiegler, finalement, l'humain est toujours déjà technique, d'une certaine manière. Nos prothèses, ce qu'il appelle nos organes exosomatiques, c'est-à-dire tous ces objets artificiels que nous fabriquons, eh bien, en fait, nous en sommes intrinsèquement dépendants. Et Bernard Stiegler s'appuie beaucoup là-dessus sur les travaux de Leroy Gourhan, qui est un paléo-anthropologue, qui a publié au milieu des années 60 un livre très connu qui s'appelle « Le geste et la parole », dans lequel Leroy Gourhan montre que le processus d'hominisation est un processus d'extériorisation technique, en fait. Mmh. Et donc, l'évolution de l'espèce humaine est liée à l'évolution de ses outils, de ses artefacts, de ses prothèses. Et donc, si vous voulez, quand on parle de l'humain, on parle toujours, en fait, d'une relation entre un corps vivant, un appareil psychique, des objets techniques artificiels et des institutions sociales. C'est tout ça, en réalité, l'humain. C'est la raison pour laquelle Stiegler a développé une sorte de méthode de recherche qu'il appelle l'organologie générale, qui consiste à étudier les relations entre les organismes vivants et les organismes psychiques, disons, que nous sommes, les organes techniques, les systèmes techniques, les milieux techniques, et puis les organisations sociales. Toujours ces trois dimensions.
Entendu. Donc, en fait, j'entends comme réponse à ma question, j'ai mis les pessimistes et critiques radicaux de la technique de côté et je suis allée voir d'autres penseurs, peut-être dans le sillage de Marcel Mauss, qui a ouvert notre série sur la technique, lui qui est l'auteur en 1934 de ce texte « Les techniques du corps » où il montre une curiosité extraordinaire pour la technique et ce qu'elle fait au corps. Et Leroy Gourhan, que vous citiez, se situe assez clairement dans le sillage de mots. Donc c'est ce que j'ai entendu. Alors je vous pose la même question, Adiris. Qu'avez-vous fait dans votre parcours des pensées radicalement critiques de la technique que vous connaissez évidemment très bien ?
Tout à fait. Écoutez, moi, je suis parti d'une aspiration spinoziste sur la puissance du corps, ce que peut le corps. Et c'est ainsi que j'ai lu Simondon, parce que Simondon montre l'étroite corrélation entre l'individu vivant, l'individu humain, et la capacité d'inventer des objets techniques, instruments, outils, machine, un peu comme prolongement du corps et capacité d'invention de la vie. Et donc, en ce sens, Simondon nous invite à délaisser une métaphysique surplombante de la technique, à étudier la technicité elle-même. Je citerai deux exemples, un emprunté à Simondon, l'autre, un exemple cinématographique, je parlais de Stanley Kubrick. Simondon cite une fameuse analyse de Heidegger dans Être et temps sur le marteau. Effectivement, le marteau, l'ustensile, l'être pour du marteau. J'utilise un marteau pour mettre des clous dans un mur, pour élaborer et construire un mur, lequel mur fait partie d'une maison qui est pour habiter le monde, etc. etc.
Et qu'est-ce qu'il dit Heidegger ? Parce qu'il faut quand même qu'on dise ce qu'il dit Heidegger, qui a pris, notons-le, un exemple, qui n'est pas très XXe siècle. Voilà. Il y avait beaucoup de choses à prendre.
Alors, l'ustensile, c'est une analyse formelle intéressante qui sert à parler des structures du design. Mais en revanche, ensuite, il y a une analyse de l'ustensilité, de l'utilisation de la mathématisation, de l'adjonction de l'énergie, qui fait que, très vite, Heidegger insiste sur le caractère abstrait, uniformisant de la technique, avec une capacité de la technique de faire violence, en quelque sorte, à la nature, et d'occulter l'être. Simondon dit les choses, des choses radicalement différentes, quand bien même c'est aussi un phénoménologue de l'objet technique, d'où le titre de son ouvrage, du mode d'existence des objets techniques. Ce que Simondon explique, c'est que la technicité d'un objet technique, c'est sa capacité à bien lier des aspects de son fonctionnement. Ce qui intéresse dans l'objet technique, ce n'est pas sa fonction, ce à quoi il sert, mais comment il fonctionne. Autrement dit, dans un marteau, ce qui intéresse le philosophe de la technicité, c'est le rapport entre la masse métallique et le manche. Comment on fait tenir les deux ensemble? Comment on les corrèle? Et donc, il y a une lignée de marteaux en rapport avec ce perfectionnement. Et donc, Simondon en arrive à deux idées maîtresses. La première, c'est que l'objet technique adéquat mime le fonctionnement du vivant, mime, simule le fonctionnement du vivant, c'est-à-dire qu'il doit avoir une certaine autonomie. Et cette autonomie de l'objet technique, cette capacité d'agir en réponse à son milieu, à capter une information et répondre par une action à cette information, l'apparente à l'organisme. Autrement dit, l'organisme vivant produit des organismes techniques. Et des organismes techniques qui requièrent l'inventivité du vivant et qui surtout, c'est la deuxième caractéristique de l'objet technique, et ça c'est capital, parler de l'objet technique comme de quelque chose d'automatique, c'est de n'avoir rien compris à l'objet technique. Parce que plus un objet technique est sophistiqué, et moins il est automatique. C'est-à-dire qu'il est programmable, reprogrammable, et qu'il exige, en quelque sorte, l'intervention de l'humain pour l'inventer et pour le faire fonctionner. À la manière, l'homme agit sur les objets techniques comme un chef d'orchestre. Et pour conclure, si j'ai tout petit peu de temps,
je vous en prie, bien sûr.
Une remarque quand même superbe, à mon avis, c'est le film superbe de Stanley Kubrick,
oui,
s'intitulait,
oui,
L'Odyssée de l'espace, où dans une séquence, Kubrick met tous les sophismes antitechniques en place, puisque l'ordinateur HAL va décider, fait une sorte de dépression nerveuse, devient méchant, tue tous les humains qui sont dans le vaisseau spatial, et il y a certainement un combat avec l'unique survivant, le fameux Dave, qui va essayer de déconnecter l'ordinateur pour pouvoir survivre.
Autrement dit, excusez-moi, c'est pas très optimiste. Ça veut dire qu'il va quand même falloir nous déconnecter,
oui,
de tout un
problème,
tas d'objets techniques pour survivre. Il va plutôt dans le sens,
oui, oui,
d'une angoisse très grande.
Tout à fait,
Kubrick.
Je suis d'accord. Mais c'est une angoisse qui relève un peu de la superstition, parce qu'on n'a pas compris comment fonctionnait un ordinateur, on n'a pas compris quel était le rôle exact de l'humain qui, en réalité, reste maître et créateur de la technique.
Je vous propose d'entendre l'analyse du marteau par Simondon, l'emmanchement. Il y a un vrai étonnement, curiosité, comme chez vous, Adiris, et chez vous, je crois aussi, Anna Lombert, pour la chose technique, et c'est une réponse, en vérité, à Heidegger s'exprimant sur le marteau, comme vous l'avez rappelé. Écoutons.
Prenez un outil. Qu'est-ce qui fait l'essentiel d'un outil? C'est qu'il est un rapport, bien sûr, un intermédiaire entre le corps de l'opérateur et les choses sur lesquelles il agit. Mais c'est aussi qu'il doit d'abord, pour être un bon outil, être indémanchable, être bien constitué. Alors, selon les différentes cultures, on trouve, par exemple, un emmanchement à collet, un emmanchement à douille, un emmanchement à jonc ou à soie. Ce sont différentes solutions qui sont appropriées au bois dur, au bois moyen, au bois tendre des pays du Nord. Ces différentes solutions sont toutes rationnelles si l'on tient compte des deux constituants, à savoir le fer d'un côté et le manche de l'autre, et si l'on se rend compte d'autre part que la nature même de l'outil, c'est d'établir un rapport constant et non fallacieux entre le corps de l'opérateur et l'objet sur lequel il agit.
C'est Gilbert Simondon, philosophe du XXe siècle, que vous entendez là, en 1968. Anna Lombert, vous connaissez bien Simondon aussi. Vous avez travaillé sur son œuvre. de l'extérieur, pour être tout à fait franche, on a l'impression, bon, on s'émerveille de l'emmanchement d'un marteau. C'est vrai que c'est assez beau ce qu'il dit sur les matières, le bois ou pas le bois, etc. C'est vrai en même temps, je vous cache pas, je regarde ça un peu de l'extérieur, je l'avoue humblement, je ne connais pas dans le détail ses œuvres, mais que ça donne un peu l'impression qu'on est loin de la gravité de Kubrick, par exemple. C'est-à-dire, oui, d'accord, le couteau suisse ou le marteau, c'est sublime. Enfin, ce sont plein d'artisanats qui les ont fabriqués. Bon. Mais est-ce que cet émerveillement va suffire à contrer l'angoisse vraiment du XXe siècle à l'égard de la technique qui n'est pas toujours infondée?
Oui, écoutez, moi je suis assez d'accord parce que précisément une des raisons pour lesquelles j'ai beaucoup travaillé avec Bernard Stiegler et sur son travail, c'était parce que la pensée de Simondon, à certains égards, bien sûr, me semblait un petit peu insuffisante, disons, dans la dimension politique de la technique. Et d'ailleurs, c'était un petit peu une des critiques que Bernard Stiegler adressait à la pensée de Simondon, c'est d'oublier un petit peu la dimension politique. Alors, bon, ça se discute, hein, évidemment, je vais pas rentrer dans les détails, mais disons que, si vous voulez, le point important chez ces penseurs, à mon avis, c'est de bien voir qu'il ne suffit pas de condamner la technique. Et je pense que ça, c'est très important. Aussi radical soit-on dans la critique, la condamnation ne suffit jamais. Parce que ce qu'explique Bernard Stiegler, c'est que quand on condamne la technique en tant que telle, en fait, on oublie précisément cette dimension politique. C'est-à-dire que on va condamner la technique, l'opposer à l'humain, mais en fait, la véritable question, c'est de savoir qui possède ces technologies, qui décide de leur fonctionnement, quels sont les modèles économiques qui sont derrière, quelles sont les idéologies politiques qui sont derrière, et comment les transformer. Parce que si on se contente de condamner la technique et qu'on ne s'en occupe pas, eh bien, c'est elle qui s'occupera de nous, ou plutôt, c'est ceux qui s'en occupent qui s'occuperont de nous. Donc, là où Bernard Stiegler me semble précieux, si vous voulez, c'est que lui, il pose, alors il s'intéresse évidemment aux technologies, mais il pose aussi la question de ce qu'elles nous font. Quels sont leurs effets sur nous? Et notamment, il pose la question de la prolétarisation et de la perte de savoir.
On va écouter cela en détail, mais ce qui est très intéressant, ce que vous dites, c'est que vous semblez suggérer que, dans votre parcours à vous en tout cas, Gilbert Simondon vous a beaucoup intéressé, mais il manquait quelque chose de politique que vous avez davantage trouvé chez Bernard Stiegler. Et évidemment que je serais curieuse d'entendre ce que dit Adi Risk, très grand amateur de Simondon, sur ce point. Mais je vous propose d'entendre à nouveau Simondon, qui évoque l'ambiance, dit-il, autour des outils, le nouveau monde que cela crée. Et ça permettra de se demander s'il n'y a pas là quelque chose de politique. Écoutons-le à nouveau en 1968.
Si justement la raison est conçue comme inductive et comme cherchant à ne pas s'éloigner du concret du réel, l'ambiance de l'usage de l'objet technique, de son invention, reste assez près du monde, peut même devenir une manière de décoder le monde avec des vitesses, des modes de regard, des manières de se tenir que le simple corps n'aurait pas permis. À ce moment-là, l'objet technique a une valeur prothétique ou prosthétique, comme disait Norbert Wiener. Voir le monde d'avion, le voir d'un satellite, c'est le voir comme jamais homme ne l'a vu, aussi concrètement, mais à une plus grande distance et d'une plus grande vitesse.
Intéressant à dire risque, Simondon parle d'une ambiance, Stimmung, je présume, voilà. En allemand, oui, c'est ça, des choses qui hantent vraiment... La phénoménologie allemande, de Husserl à Heidegger, etc. Et est-ce que ça répond à ce que vient de dire Anna Lombert, à savoir que cette ambiance change la donne politiquement et qu'il ne faut pas d'emblée condamner cela? Ou bien vous aussi, vous trouvez que Simondon a insuffisamment creusé la question politique?
Pour ma part, je suis venu les lectures de Simondon, d'une part, à partir d'une réflexion sur la puissance du corps, l'aptitude relationnelle du corps, dans laquelle la technique s'inscrit, et d'autre part, une réflexion sur la praxis, le travail, la technique. Et là, je trouve que Simondon donne des indications qui, sans être explicitement politiques, ont des conséquences politiques très fortes. Par exemple, il réfléchit sur le rapport entre le travail et la technique. Il dit que, le plus souvent, on reproche à la technique, pensez au machinisme du capitalisme, d'entrer dans le système d'exploitation. Elle augmente la possibilité d'obtenir de la plus-value relative en fixant des compétences, des connaissances dans le capital fixe et par voie d'extension dans les machines-outils. Et du coup, il y a une très belle distinction que fait Simondon. Le corps du travailleur devient l'intermédiaire entre les machines et le monde. Il doit se soumettre au rythme de la machine. Certes, celle-ci a peut-être une source d'énergie propre, mais elle fonctionne très vite, elle est très spécialisée, et du coup, on voit apparaître cette extension du travailleur, appendice de la machine, le fameux Charlot, et...
Les années 20, le Fordisme, voilà. Le Taylorisme, exactement. Tout ce qui... aliénant, le voilà. Mot aliénation
absolument.
Mérite d'être nommé, vous tout le pensez aussi. Et Simondon oui. En était plus conscient.
Mais Simondon n'utilise pas directement cette terminologie, mais le machinisme, c'est une certaine phase de la technique, et plus précisément en rapport avec le capitalisme. Et quand on lit le livre premier du Capital de Marx, on a des descriptions très fines où finalement Marx parle de la machine, en particulier de la machine-outil qui est centrale dans le système de fonctionnement de l'économie, mais il parle davantage de la machine des rapports de production. C'est la machine des rapports de production constituée d'une certaine manière qui font que l'homme au travail est aliéné. Alors, le coin qu'introduit Simondon, il est quand même important, c'est de dire que la technique du machinisme industriel n'est pas la technique évoluée que l'on peut connaître aujourd'hui, c'est-à-dire qui est capable de recevoir de l'information, d'entrer par exemple avec les machines numériques dans le système de conception assistée par ordinateur qui transforme complètement les chaînes de montage, par exemple, aujourd'hui, et dans la machine sophistiquée d'aujourd'hui qui traite de l'information, c'est désormais la machine qui est l'intermédiaire entre le corps de l'homme et le monde. Ce n'est plus l'homme, porte-outil, qui est intermédiaire entre la machine et le monde. Et ce coup, ça libère le corps humain et ça libère ses capacités de production.
Vous
et Gorz
dit,
utilise
oui.
Ce genre de
André Gorz.
Ce genre d'analyse parce que beaucoup d'auteurs, je pense à Gorz, je pense dans un domaine à Negri, se sont emparés et des analyses de Simondon et des analyses de Marx dans les principes de la critique de l'économie politique, quand Marx dit il va arriver un moment où le développement de la machine, la productivité de la machine va rendre caduque la loi de la valeur. Autrement dit, ce n'est plus le travail ni le temps de travail qui définiront la richesse. Résultat, la technique peut permettre une réappropriation de la praxis par les hommes et une libération du loisir créateur.
Alors c'est vrai que Marx n'était pas contre la technique, il était inquiet des évolutions inévitables pour lui de l'appareil de production, voilà. En l'occurrence en son temps le capitalisme, qui allait finir par imploser. Voilà. Mais vous m'avez dit que Simondon n'emploie pas le mot d'aliénation, qui est quand même typiquement marxiste.
Si, mais pas dans ce sens marxiste.
Mais est-ce qu'il a un rapport à Marx ?
L'aliénation, elle est d'abord culturelle. Elle est d'abord mentale.
Donc il a lu Marx ?
Oui, je pense qu'il l'a lu.
Mais ce n'est pas la fibre la plus prégnante. Est-ce plutôt le... Heidegger, la philosophie allemande, après Husserl, la phénoménologie. Est-ce que c'est plutôt ça son terreau de réflexion plus que... et c'est peut-être pour ça qu'il y a un problème politique. On va y réfléchir avec vous, Anna Lombert. Est-ce que les enjeux marxistes sont pleinement présents dans l'analyse de Simondon ?
Ben, ils sont présents dans l'analyse de Simondon au sens où ils participent d'une réflexion sur la technique et sur la prise en charge de la technique, ou non, par la culture.
Oui.
Mais effectivement, à partir de là, Simondon a d'autres préoccupations. Il a d'autres préoccupations, qui est cette réflexion sur une histoire propre à la technique, qui ne se confond pas avec l'histoire de la production économique. Et cette histoire propre à la technique, elle fait apparaître ce qui intéresse au premier chef Simondon, parce que je veux quand même rappeler que Simondon, ses travaux sur la technique, sont un complément de ses travaux sur l'ontologie de l'individu, sur l'individuation. Autrement dit, une philosophie de la nature.
Expliquez-nous ça,
alors,
s'il vous plaît.
L'individuation, c'est le fait de comprendre comment, dans la nature, vous avez des tensions de force et finalement des systèmes qui sont en équilibre instable. Et au fur et à mesure d'une information, vous avez l'apparition de systèmes nouveaux, c'est-à-dire d'individus qui intègrent la matérialité selon une certaine organisation et qui intègrent dans leur fonctionnement le rapport au monde extérieur. Autrement dit, l'individuation est relationnelle et l'individuation est historique. Et ce qui intéresse Simondon, c'est réfléchir finalement sur comment l'individuation est tout le temps en train de se poursuivre. Il y a une individuation biologique, il y a une individuation psychologique, il y a une individuation sociale, et cette individuation se continue. Vous avez quand même un rapprochement possible entre Spinoza et Simondon. Savoir
peut-être
que,
avec Bergson aussi. Avec,
bah, bien sûr, le social est le lieu d'une multiplicité créatrice. Autrement dit, le social fait apparaître une transindividuation où les individus, de par leurs relations, acquièrent des qualités, des propriétés qu'ils n'avaient pas auparavant.
Alors pourquoi Anna Lombert, de votre point de vue, dans votre itinéraire sur ces questions, à un moment donné, vous vous êtes dit, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure, qu'avec Simondon, la question politique était somme toute limitée et vous avez pensé que Bernard Stiegler apportait davantage d'éléments, voire de chemins, de solutions.
Oui, déjà, une des raisons pour lesquelles je me suis particulièrement intéressée aussi à la pensée de Bernard Stiegler, c'est parce que, et ça c'est des questions, de chronologie, il avait un propos beaucoup plus articulé sur les technologies numériques contemporaines, évidemment, que Simondon n'avait pas pu connaître, en fait, parce que, voilà, de fait. Mais, par ailleurs, il me semble qu'on peut poser les choses de la manière suivante, en mettant un petit peu en parallèle cette notion d'aliénation et la notion de prolétarisation. Parce que si vous voulez, Simondon...
Donc là, la référence à Marx est explicite, on est d'accord.
Elle est explicite chez les deux auteurs.
Et qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Dans Du mode d'existence des objets techniques, Simondon va questionner la notion d'aliénation marxiste. Il la comprend de manière un petit peu réductrice, si je peux me permettre, mais acceptons sa compréhension pour l'instant. Son propos consiste à dire que Marx a compris l'aliénation avant tout comme une question économique.
Ça, c'est Stiegler ou Simondon ?
Non, c'est Simondon.
Ça, c'est Simondon.
Qui mobilise cette notion d'aliénation, qui dit que Marx l'a compris d'un point de vue économique, c'est-à-dire comme une dépossession des moyens de production. Donc, le travailleur ne possède pas ses moyens de production et c'est en ce sens qu'il est aliéné. En fait, chez Marx, c'est évidemment plus compliqué, mais peu importe. Et Simondon dit, l'aliénation n'est pas seulement une question économique, c'est aussi une question physiologique, psychologique, etc. C'est-à-dire, c'est une question du rapport que nous entretenons avec la machine qui ne prolonge plus notre corps. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'ouvrier va être soumis au rythme de la machine ne prolonge plus son corps. Et par ailleurs, l'ouvrier ne comprend plus non plus la machine. Et, dit Simondon, le capitaliste d'ailleurs ne la comprend pas mieux. Donc il y a une aliénation en ce sens, au sens, comme vous l'avez rappelé, d'une incompréhension du fonctionnement de la machine. Donc une aliénation à la fois un petit peu existentielle et culturelle. Mais chez Stiegler, ce n'est plus ce concept d'aliénation qui est fondamental. C'est un autre concept qui est celui de prolétarisation.
Et qu'est-ce que ça veut dire ?
Et qui repose sur une lecture différente de Marx, puisque c'est toujours Marx qui est, là derrière. Et donc, qu'est-ce que dit Stiegler ? Il dit, Marx a identifié une classe sociale qu'il a appelée le prolétariat. Et dans le manifeste du Parti communiste, il l'a défini de la manière suivante, il l'a défini par une perte des savoir-faire. C'est-à-dire que le prolétaire est celui qui a extériorisé ses savoir-faire dans la machine, bien malgré lui, à qui on a imposé l'extériorisation des savoir-faire, et qui ne peut plus les réintérioriser d'une certaine manière. Donc c'est une situation, si vous voulez, d'extériorisation du savoir vivant dans un un capital fixe, d'une certaine manière, une machine qui va automatiser ce savoir. Et le point important pour Bernard Stiegler, c'est de dire, oui, mais ce processus d'extériorisation et de perte de savoir, il ne concerne pas seulement l'ouvrier, il ne concerne pas seulement les machines mécaniques. En fait, il concerne tous les stades de la technique, d'une certaine manière. Et donc, aujourd'hui, à l'époque des machines algorithmiques, par exemple, ce sont plus seulement les savoir-faire qui sont extériorisés, ce sont les savoir-penser. Et donc, nous sommes face à un nouveau processus de prolétarisation. Donc, il ne s'agit pas seulement d'identifier le prolétariat avec la classe ouvrière, il s'agit d'envisager un processus évolutif et différents stades de prolétarisation.
Est-ce que je peux juste vous poser une question là qui, quelque chose n'est pas très clair pour moi. S'il utilise ce concept de prolétarisation pour l'étendre à un tas de situations, ça veut dire que les bourgeois sont des prolétaires aussi. C'est ça, ce n'est plus lié à une classe.
Chez Stiegler, non.
Alors là, je ne comprends pas très bien. Pour Stiegler, pourquoi il étend le concept, il reconnaît que certains ne sont pas prolétarisés parce qu'ils ne font pas partie de la classe des prolétaires, même s'ils utilisent la technique. Il y a plein de problèmes dans leur vie, mais il ne pourrait pas les appeler des prolétarisations s'il ne créait pas un peu de flou sur cette notion. C'est-à-dire, il arrêtait avec l'acception qui évoque l'appartenance de classe.
Oui, alors disons qu'en tout cas, il pense le processus de prolétarisation indépendamment, si je puis dire, de la classe
donc
prolétarienne.
Les bourgeois peuvent être prolétarisés.
Exactement.
Aussi.
Ah oui, tout à fait. Et même les décideurs politiques, vous voyez.
Donc il n'y a plus une classe prolétarienne, tout le monde peut subir une prolétarisation.
Exactement, c'est le propos de Stiegler. Et dans La société automatique, Stiegler s'intéresse à la prolétarisation des décideurs politiques, des concepteurs scientifiques, vous voyez.
Mais il n'y a plus de lutte de classe non plus, alors.
Disons qu'il y a une lutte contre la prolétarisation, mais qui n'est peut-être
plus... Une lutte consensuelle.
Alors, consensuelle, je ne sais pas, parce qu'il y a des gens qui ont intérêt à ce que nous soyons prolétarisés, si vous voulez. Donc, il y a toujours une lutte politique, mais cette lutte politique ne doit peut-être pas être pensée seulement comme une lutte des classes, je dirais, chez Stiegler.
Alors on va l'écouter, comme ça on
Exactement.
Va pouvoir prolonger cette analyse du concept de prolétarisation chez Bernard Stiegler. Écoutez-le en 2017 sur Arte.
Quand vous avez un type qui est le président de la Réserve fédérale des États-Unis, c'est-à-dire le patron de la finance mondiale, quand on entend le président de cette Réserve fédérale dire « j'y comprends rien », ça veut dire qu'il est prolétarisé au sens où Marx et Engels, en 1848, avaient décrit la prolétarisation. Ils avaient dit « être prolétarisé, c'est perdre son savoir et se mettre à travailler pour un système qu'on ne comprend pas et qu'on ne peut pas changer ». Et il disait, à la fin de cette description de ce que c'est que la prolétarisation, ça touche pour le moment les ouvriers, demain ça touchera les cadres, et à la fin ça touchera absolument tout le monde. Là, c'est ce qu'on est en train de vivre. Et ça, c'est très 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 dangereux, parce qu'aujourd'hui, on est piloté par les algorithmes, y compris ceux qui veulent créer des algorithmes pour piloter des choses, se retrouvent eux-mêmes pilotés par les algorithmes, c'est-à-dire qu'ils ne contrôlent plus rien. On a de plus en plus de mal à anticiper ce qui va se passer. On a l'impression qu'on est dans ce que les punks, depuis 1977 à Liverpool, appellent « no future ».
Bernard Stiegler s'exprimait là dans une web-série documentaire intitulée « Algorithmes endiablés », donc sur Arte en 2017. Peut-être nous pourrions comparer ce qu'il dit là avec un autre de ses propos en 2009, cette fois, donc avant, et c'était sur France Culture.
On a affaire à une industrialisation de la mémoire sous toutes ses formes. Là, nous parlons essentiellement de la mémoire de lecture, mais on pourrait parler de la mémoire génétique. On vient de parler de la mémoire comportementale. La traçabilité, c'est ce qui... les fameux cookies. On a une traçabilité généralisée qui fait que la mémoire est devenue finalement une activité industrielle dans toutes ses dimensions. Cela étant dit, il faut préciser que l'extériorisation de la mémoire a toujours caractérisé l'être humain. Et pas seulement depuis les Grecs et l'écriture, mais depuis l'origine même de l'hominisation. La définition que Leroy Gourhan donne de l'être humain, c'est l'extériorisation de sa mémoire. Dans des objets techniques. Il se trouve qu'au départ, ce sont des silex taillés ou des morceaux de matériaux qui sont travaillés pour produire des armes et un peu améliorer, je dirais, le caractère prédateur de l'être humain ou son système de défense. Aujourd'hui, ce sont d'énormes mastodontes industriels qui se font des guerres économiques avec cela, en nous utilisant.
Anna Lombert, qu'est-ce qui est important dans tout ce qu'on vient d'entendre de Bernard Stiegler? Sur quoi voudriez-vous mettre l'accent?
Alors, deux choses peut-être. La première, c'est la thèse tout à fait fondamentale. Je suis contente qu'on ait entendu ce terme de mémoire, parce que vous savez que la thèse de Bernard Stiegler s'intitule « La technique et le temps ». Et donc, c'est vraiment une réflexion sur la question de la temporalité et de la mémoire. C'est la raison pour laquelle il s'inspire beaucoup, bien qu'il les critique et qu'il les dépasse, de Husserl et de Heidegger, hein, qui sont les deux grands penseurs du temps.
Il les critique.
Oui, bien sûr.
En quel sens ?
Alors, il est critique au sens où, si vous voulez, c'est un petit peu ce qui est inscrit dans le titre même de la thèse. En fait, la thèse de Bernard Stiegler, ça va être que la temporalité dépend des supports techniques. Les régimes de temporalité dépendent des supports techniques. Notre possibilité d'accéder au passé dépend des supports techniques qui nous entourent.
Le seul fait de tenir un carnet pour noter des choses est un aide-mémoire. Et finalement, la plupart des supports techniques prolonge ce geste, c'est ça ?
Exactement, tout à fait. Et nous ne nous rapportons pas au passé de la même manière, par exemple, à l'époque de l'écriture alphabétique, à l'époque de l'imprimerie, à l'époque de la photographie, à l'époque du cinéma, à l'époque du numérique et de toutes ces traces numériques que nous laissons derrière nous en permanence. Vous voyez, ça veut dire que notre rapport au passé change. Nous n'avons pas accès au passé de la même manière en fonction de l'évolution des supports de mémoire. Et donc, nous n'avons pas accès au présent non plus de la même manière, ni à l'avenir, d'une certaine manière. Vous ne vous rapportez pas à l'actualité de la même manière à l'époque de la presse papier ou à l'époque de la télévision en direct, etc. Donc tous ces supports de mémoire transforment en fait nos conditions même d'expérience, vous voyez, la manière même dont les phénomènes nous apparaissent.
À quel moment alors sommes-nous, le processus se renverse-t-il, l'aide-mémoire assez magnifique, parce qu'effectivement un individu ne peut pas se souvenir de tout, ni de sa vie, ni du passé de l'humanité, donc chaque fois qu'il apprend, il pose des choses sur des supports techniques, aujourd'hui plutôt sur l'ordinateur, où il va vérifier des choses, dans des lieux qui sont somme toute techniques, même une bibliothèque, c'est un lieu technique, d'accord, j'entends, mais à quel moment ça se renverse en quelque chose de négatif qu'il appelle la prolétarisation ?
Alors, le moment important, c'est, il parlait dans l'extrait précédent, de l'industrialisation de la mémoire. C'est-à-dire quand ces supports de mémoire vont devenir des industries, et en particulier à l'époque contemporaine, des industries numériques qui sont pilotées par certaines grandes entreprises privées, les géants du numérique qui viennent bien souvent de Californie, par exemple, et qui, en fait, vont avoir un agenda économique très précis qui consiste, en fait, à comment dire, se substituer un petit peu à nos décisions, c'est-à-dire en fait à nos attentes, à nos désirs. Et Bernard Stiegler va parler d'une forme de prise de vitesse, en fait, des calculs algorithmiques sur les quantités massives de données, sur nos capacités à nous, nos capacités de protension, d'anticipation. Je vous donne un exemple concret. Lorsque nous sommes sur tel ou tel réseau social, eh bien, c'est l'algorithme qui va nous dire en avance ce que nous avons envie de voir. Donc ce n'est plus nous qui allons, à partir de nos souvenirs, de notre expérience, de nos désirs, de nos attentes, aller chercher le contenu culturel que nous voulons regarder, écouter, consulter, mais c'est l'algorithme qui va, d'une certaine manière et de manière performative, nous conseiller et en même temps nous contrôler d'une certaine manière, hein, parce que quand nous voyons suggérer tel ou tel contenu, bah, nous y allons de manière un petit peu spontanée. Donc là, on a tout d'un coup un système de mémoire technique industrielle, oui, qui prend le contrôle sur nos comportements.
Et donc, je crois évidemment, que là, c'est plus clair, en effet. C'est-à-dire que
ça pose des problèmes.
Il y a un
vous
moment
voyez.
Où ce ne sont plus des aides et des supports, mais ce sont des choses qui nous dirigent. Est-ce que vous pensez à Diris, vous qui connaissez aussi Bernard Stiegler, comme vous connaissez Gilbert Simondon, que Stiegler a apporté quelque chose de nouveau par rapport à Gilbert Simondon, dans notre rapport à la technique, dans la conceptualisation des problèmes et dans les enjeux politiques autour
sans
de ces
doute,
questions.
Ne serait-ce que par la nature des objets sur lesquels il réfléchit. On a parlé du numérique, qui effectivement, Simondon évoque les ordinateurs, mais il les évoque en voyant comment les fameux calculateurs sont en réalité des machines programmables, et il voit là plutôt des ressources positives, puisque la programmation implique l'humain et l'invention humaine. Donc c'est l'état de la réflexion de Simondon sur les ordinateurs à son époque, pour dire qu'ils ne sont pas ce que l'on croit, puisqu'ils exigent encore plus de régulation humaine. Mais je dirais que, sans doute, Stiegler approfondit une veine, mais qui est présente chez Simondon, c'est que Simondon n'a pas cessé, tout au long de son œuvre sur la technique, d'appeler à une révolution culturelle et pédagogique.
C'est d'arrêter de la détester, parce que les philosophes pour de arrêter son de temps la détester, ont montré une grande détestation.
Pour arrêter de la détester, il faut commencer par réintroduire la technique et la technologie dans la culture. Montrer comment les schèmes techniques sont de véritables schèmes de pensée. Mmh. Des notions qu'il a inventées comme l'autocorrélation, l'individuation, la transduction, tout ça, consistent à montrer comment il y a du théorique à l'œuvre dans la technique et du théorique que l'on retrouve dans l'imagination et dans d'autres activités humaines. Et donc, pour Simondon, cette espèce de fascination, répulsion à l'égard de la technique tient au fait que nous n'avons pas la culture de la technologie à la hauteur. Et donc, ça explique notre passivité et notre soumission. Parce qu'il y a quand même quelque chose de paradoxal que souligne Simondon. Lorsqu'on assiste à une extériorisation des fonctions, des aptitudes et d'un certain savoir dans la machine,
oui,
dans un premier temps, auprès des ouvriers qui utilisaient une machine de moindre complexité, ils ont l'impression qu'elle va les remplacer. Et donc...
Et ça, c'est seulement une impression. Il faut qu'on pense mieux la technique
fait,
pour perdre ce fantasme
négatif.
Ils se
sont dépossédés de leur travail et de leur savoir.
Mais c'est vrai qu'on est dépossédé ou c'est un fantasme?
En partie, oui. Mais on est dépossédé, on se sent dépossédé parce qu'on n'a pas la culture requise pour intervenir de manière régulatrice sur les machines, alors que les machines requièrent cette régulation.
Donc on a trop de peur, mais pas assez de pensée.
Voilà.
C'est ça?
Et oui. Et moi, je pense que ce phénomène qu'analyse Gorz, de où la machine nous échappe, c'est ce que Gorz a nommé dans certains de ses textes l'hétérorégulation, mais tient au fait de cette aliénation des pratiques et des savoirs à l'égard de la technique. Et donc, elle est remédiable. Elle est remédiable. Cela engage effectivement l'activité pratique humaine elle-même.
Alors, elle est remédiable. Nous avons déjà eu cette discussion dans une autre émission avec vous, Anna Lombert, où vous nous expliquiez que même aujourd'hui, il y a d'autres algorithmes qui sont inventés pour faire droit à davantage de pluralité, pour que nous soyons moins soumis à de l'uniforme. Il est indéniable que Bernard Stiegler faisait quand même confiance à la technique pour corriger ses mots les plus graves, et on l'entend dans son éloge de Wikipédia. Il s'exprimait là sur la chaîne YouTube en 2014.
Wikipédia, ça a constitué une force contributive. C'est une force qui produit plus d'intelligence. Cette intelligence, elle est produite sur Wikipédia par à peu près 1000 à 1 million de contributeurs qui sont des contributeurs assez permanents. C'est-à-dire que ce sont des gens qui modèrent des articles. Il y a des centaines de millions, en fait à peu près 2 milliards de personnes qui utilisent Wikipédia. C'est à peu près 2 milliards parce qu'il y a 2 milliards d'internautes sur la planète et tout le monde utilise Wikipédia. C'est le cinquième site mondial. Ça fonctionne avec 50 salariés. Ça ne produit pas une thune, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun business model. Ça ne vit que des dons. Wikipédia, c'est une entreprise purement coopératif, contributif. Il n'y a pas de but lucratif. Google, c'est un but très lucratif. C'est aujourd'hui le meilleur taux de rentabilité du monde. Ils ont piqué la publicité à peu près à tout le monde, hein, et gagnent des milliards. Google, c'est une entreprise contributive. C'est une entreprise contributive que je combats, dont je me sers sans arrêt. J'en suis un des clients et des fournisseurs. Mais c'est contributif parce que je contribue à Google. En me servant du moteur de recherche de Google, je nourris le moteur de recherche de Google. Le contributif, c'est aussi un pharmacone. Tout est un pharmacone. Il y a du mauvais contributif. Aujourd'hui, tout ce qui se développe aujourd'hui, Amazon, Google, Facebook et tous ces machins, c'est contributif. C'est pas le modèle classique. Mais c'est du mauvais contributif parce qu'il reste financé par le consumérisme. Et ce que je crois, c'est que c'est un contributif transitoire. Eh bien, il va y avoir du tout contributif. On n'en est pas encore là. Il y aura du tout contributif quand il n'y aura plus du tout de salaire, on sera bien obligé de redistribuer.
Je vous fais une petite proposition. Nous ne commençons pas tout de suite sur ce concept de pharmacone, parce que ça va nous emmener assez loin. Anna Lombert, je voudrais plutôt d'abord vous entendre sur Wikipédia. L'éloge est clair, il est, je trouve, très convaincant. Wikipédia ne veut pas faire du fric, il n'y a pas une thune, nous dit-il, Stiegler. Ça n'a rien à voir avec Google, il y a des choses, d'ailleurs, souvent, enfin c'est bien sourcé, il y a des erreurs comme partout, mais elles se rectifient. J'avoue être assez séduite par ce qu'il dit, et spontanément pas en désaccord, mais je note qu'il y a aussi des ouvrages aujourd'hui qui sortent. critique de Wikipédia. Vous en êtes où, vous, plus de 10 ans après cette intervention de Stiegler, sur cette question, par exemple, de Wikipédia?
Alors, si vous voulez, Wikipédia peut poser beaucoup de problèmes. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais pour moi, Wikipédia demeure un modèle très intéressant. Je vais essayer de vous dire pourquoi. Parce que ce qu'a fait Wikipédia, cette encyclopédie collaborative, était complètement impossible avant le numérique. Vous ne pouviez pas créer une encyclopédie avec toutes sortes de personnes différentes, etc., sans une technologie numérique. Donc, on a bien l'exemple d'un lieu où le numérique a été fondamental, parce que sans numérique, avec le papier ou la télévision, tout simplement, ces pratiques contributives-là et cette co-construction collective de savoir n'auraient jamais été possibles. Donc là, on n'a pas utilisé le numérique pour remplacer des humains, vous voyez, et pour automatiser des activités de travail humain. On a utilisé le numérique pour faire une plateforme de partage des savoirs. Et ça, c'est extrêmement intéressant.
Donc vous confirmez l'éloge aujourd'hui?
Alors, oui, je confirme l'éloge, même si je pense qu'il y a beaucoup de problèmes sur Wikipédia, notamment dans la manière dont ça fonctionne, par exemple. Il y a une critique qui est parfois adressée à Wikipédia qui, je pense, n'est pas fausse, qui consiste à dire qu'il faut toujours sourcer avec des informations qui ont déjà été, disons...
Partagées
par d'autres médias. Et donc, du coup, ça renforce des propos consensuels par rapport à ce qui a déjà été dit ailleurs. Et ça, je pense, comme Bernard Stiegler le disait très bien, et je ne vais pas revenir sur le concept, mais c'est pharmacologique au sens où vous avez besoin que les propos soient sourcés, donc vous avez besoin de sources, mais en même temps, quand vous sourcez ces propos, eh bien, vous reprenez ce qui a déjà été dit ailleurs, donc vous ne facilitez pas la diversité des contributions. Vous voyez ce que je veux dire? Donc,
et vous évidemment, pouvez y aller maintenant sur le pharmacologique.
Voilà, alors, je peux peut-être y aller sur le pharmacologique, mais c'est pour dire que...
Le pharmacon, c'est un mot qui a d'abord été employé par Platon, on le retrouvera ensuite dans la tradition épicurienne, et dans un texte, le Phèdre, où il semble dire fondamentalement qu'il peut y avoir un remède, notamment un remède pour la mémoire, dans le fait d'écrire. C'est exactement le problème du Phèdre de Platon que nous avons évoqué. Mais Jacques Derrida, dans une célèbre lecture qui s'appelle « La pharmacie de Platon », dit que le mot grec « pharmacon » porte en lui une ambivalence. Il dit le remède, mais il dit aussi le poison. Je serais tentée de dire, c'est comme le mot drogue, quand il est employé en anglais, par exemple. Un médicament, c'est drug, exactement comme la drogue. Alors que nous, notre langue sépare davantage. C'est important, l'ambivalence. Est-ce que ça veut dire que le poison n'est jamais loin du remède? Et c'est profond, ça, pour réfléchir à la technique, Anna Lombert?
Oui, alors ça, c'est vraiment fondamental. Derrida propose d'ailleurs dans son texte cette traduction de drogue en disant finalement c'est peut-être la meilleure, parce que le problème c'est qu'on a un mot qui a une signification intrinsèquement ambiguë, ambivalente, et que nous allons le traduire ou bien par médicament ou bien par poison. Donc nous allons séparer les deux polarités qui sont en fait liées. Et nous allons ensuite les opposer. Et nous allons opposer la mauvaise technique d'un côté, la bonne culture de l'autre, par exemple, pour reprendre l'exemple qui avait été donné précédemment à partir de Simondon. Et donc ce que dit Derrida, c'est que non. Précisément, le poison est dans le remède et le remède est dans le poison, si je puis dire. Et donc notre relation à la technique, Bernard Stiegler va utiliser ce terme de pharmacon pour penser notre relation à la technique, en disant finalement, la drogue, nous en sommes dépendants. On ne peut pas s'en passer. Mais le problème, c'est que la drogue peut aussi nous détruire. Donc vous voyez, c'est une vision de la technique qui est très différente de la vision transhumaniste qu'on nous propose aujourd'hui. La technique va régler tous nos problèmes, c'est le technosolutionnisme, vous savez, ou bien la technique va nous augmenter. Ben là, c'est un peu différent. Elle va vous augmenter, mais au moment même où elle vous augmente, elle vous diminuera. C'est ce que dit Platon sur l'écriture, en disant, vous croyez augmenter votre mémoire, et bien sûr, votre mémoire est augmentée, puisque vous pouvez vous souvenir de beaucoup plus de choses grâce à l'écriture. Mais au moment même où elle est augmentée, vous êtes diminué d'une certaine manière, parce que vous n'allez plus exercer votre mémoire.
La mémoire vivante.
Exactement.
Et on dit qu'aujourd'hui, avec tous les stockages de choses sur les ordinateurs, on sait que tout est disponible, l'individu, je me tourne vers vous, et le concept d'individuation à dix risques, qui est un concept important chez Simondon, l'individu est diminué aussi dans sa mémoire vivante.
Oui.
Et vous pensez que cette histoire de remède poison, de pharmacone pour caractériser la technique, là on voit combien Stiegler est marqué par Derrida, c'est aussi intéressant, même si le mot ne figure pas, pour caractériser la relation de Simondon à la technique. Il y a quelque chose là qui aide à penser ce qu'il fait?
Mais je dirais un mot rapidement. Simondon renouvelle à partir de sa réflexion sur la technique l'importance de l'imagination. Et l'imagination est engagée dans la technique et l'imagination renvoie aux sources oui. de la vie elle-même dans sa capacité d'inventer des formes. Et je dirais que, du point de vue de Simondon, tout est de savoir comment dans ce réseau d'informations brutes figées, on a cette capacité, non pas de demander de l'information ou de recevoir de l'information, disons, apprêtée ou préparée, mais d'initier sa propre recherche, c'est-à-dire d'inventer au fur et à mesure les structures, les schèmes qui permettent à la fois de comprendre ce qu'on lit et de chercher des choses auxquelles on n'avait pas pensé. Je crois que c'est ça la réponse que donnerait Simondon à ce problème oui. de la mémoire stockée. Le contrepoint à la mémoire stockée, c'est les ressources de l'imagination du savoir. Imaginer, c'est finalement trouver des hypothèses pour traiter une question auquel on n'avait pas pensé. Et trouver cette hypothèse, chemin faisant, en affrontant une difficulté ou en prenant la mesure d'un problème.
C'est stocké, mais c'est incroyablement disponible grâce à des outils comme Wikipédia, etc. Anna Lombert. Donc d'une certaine façon, nous avons moins d'excuses de ne pas chercher, tellement c'est facile de chercher. Je vais donner un exemple. Je ne dirai évidemment pas que c'est. J'ai entendu un sujet sur, quelque part, sur une antenne, sur les programmes Erasmus, aujourd'hui. Et la journaliste disait Erasmus du nom d'un humaniste, Erasmus, qui a fait ses classes à l'étranger. J'ai trouvé ça incroyable. On dit Erasme en français, c'est pas dur de vérifier. Faire ses classes, c'est une expression militaire. Il a surtout enseigné et fait des recherches en lien avec des gens à l'étranger. Enfin, c'était pas difficile d'aller chercher qui était Erasme. Et du coup, on est plus énervé, parce qu'on se dit, quand même, c'était facile, quoi. On s'y faisait pianoter. Et c'est intéressant, ça, comment ça nous perturbe un peu, la proximité du savoir.
Oui, et puis, si vous voulez, c'est aussi une question de rythme, je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une injonction à faire tout très vite, à produire très vite des contenus pour être de plus en plus vus sur telle ou telle plateforme. Et donc, parfois, on va aller très très vite, on va pas du tout faire attention à ce qu'on raconte, on va pas faire les recherches nécessaires, parce que, pourquoi ? Parce qu'on fonctionne selon cette logique de l'audience qui est aussi la logique de la publicité. Et là, je rebondis sur ce que disait Bernard Stiegler tout à l'heure dans l'extrait. Il opposait à cette logique contributive un modèle économique fondé sur la consommation et la publicité qui est en train de détruire complètement notre milieu symbolique numérique. My body is the car that I've been driving around for 36 years. My body the car, slowly burning out the rubber and stripping the gears. My body the car, remember the time when a cigarette burnt a hole in my skin. There was nobody in to put out the fire. Lost in the skin on a rumbling road where the CB kids all mumble in code. You're a liar.
You're a liar.
And if the telephone rings, it'll be my doctor telling me to cool it.
Oh, yeah.
I don't want no x-rays or any brand new drug you've never tried. I don't want no hoorays dressed up as doctors poking around inside.
I'll always be
a motor car. My body the car. My body is the car that I've been driving around for 36 years. My body the car, slowly burning out the rubber and stripping the gears. My body the car.
There's a man with a suitcase with a whole bunch of shirts and magazines, selling roadmaps and Bibles and Benzedrines. For days and nights I stare in the mirror, and the days and nights they stare back at me.
My body the car
is a little older.
My body the car
still looking good.
La technique est liée au corps, c'était notre ligne de force dans cette série de cette semaine sur la technique. Et donc voici une chanson pour clore, My Body the Car, mon corps la voiture. par Godley and Cream. C'est un duo britannique constitué en 1977. La chanson date de 1983. Merci beaucoup Anna Lombert et Adi Risk. Les références de vos travaux sont sur notre site. Voici maintenant la chronique de Nassim El Kabli qui ce matin se demande comment s'enivrer d'art avec Nietzsche. Voici le fil philo.
Ça y est, vous y êtes. Votre artiste préféré, celui que vous suivez depuis longtemps, dont vous connaissez chaque note et chaque chanson, se produit enfin sur scène. Le rideau se lève, show must go on. Mais au même moment, un autre rideau se dresse. Votre écran de portable est celui des autres spectateurs. Le concert a commencé, les tubes s'enchaînent. Vous ne voulez rien perdre, vous ne lâchez plus votre portable, à moins que ce ne soit l'inverse, votre portable ne vous lâche plus. Mais l'expérience esthétique, la manière dont vous éprouvez une œuvre d'art, n'exige-t-elle pas de vous abandonner à elle ? C'est ce que Nietzsche, philosophe allemand du 19e siècle, a très bien perçu. Une expérience esthétique accomplie, pleine et profonde, relève, nous dit-il, de l'ivresse. Or, l'ivresse est aux antipodes de la maîtrise et du contrôle. Immortaliser le moment avec votre téléphone, c'est chercher à maîtriser l'expérience. Et vous ne trouvez pas curieux de vouloir transformer ce moment présent en souvenir ? En archivant votre expérience au moment même où vous êtes en train de la vivre, n'êtes-vous pas en train de faire de ce moment présent une expérience déjà passée ? Photographier ou filmer, c'est se tenir à distance, c'est vouloir maîtriser la situation en choisissant tel ou tel angle, par exemple. Il vous arrive même de regarder aussitôt la photo que vous venez de prendre. L'ivresse que procure l'audition d'une musique ou la contemplation d'un tableau plonge le corps dans un état d'excitation et d'éveil qui, nous dit Nietzsche, renforce et vivifie notre sentiment d'existence. L'art, écrit Nietzsche dans les fragments posthumes, est le grand stimulant de la vie, une ivresse de la vie, une volonté de vivre. Cette ivresse esthétique n'a pour Nietzsche rien à voir avec l'ivresse provoquée par le vin ou la bière, qui au contraire diminue notre puissance d'agir. S'abandonner à une œuvre d'art, se laisser guider par elle, permet, nous dit encore Nietzsche, de ressentir une sensation de puissance exaltée. La jouissance esthétique augmente notre sentiment d'exister. Or, ce sentiment d'exister se vit pleinement au présent. La photo et la vidéo font écran à notre expérience parce qu'elles nous détournent du présent vivant. Elles nous projettent dans l'après en transformant en souvenir ce qui est en train d'être vécu. Voilà que votre artiste préféré lance les premières notes de votre morceau favori. La tentation de vouloir conserver le moment est forte, mais n'est-elle pas illusoire ? En réalité, vous ne conserverez que le fantôme d'un moment que vous n'aurez pas pleinement vécu. Pour vivre pleinement l'œuvre, il faut résister à l'appel des écrans. Votre téléphone vous éloigne du présent puisqu'il prétend le capter. Vous allez me dire, c'est normal de vouloir garder le souvenir d'un événement qui vous tient tellement à cœur ? Soit, mais le portable n'est pas le meilleur outil de préservation. Soit l'événement est magique, encore plus beau que ce que vous espériez, dans ce cas, votre mémoire affective s'en souviendra parfaitement. Soit le spectacle n'était pas à la hauteur, dans ce cas, quel intérêt d'immortaliser un moment décevant ? Nietzsche a écrit plusieurs aphorismes sur ce qu'il appelle la physiologie de l'art. Parler de physiologie, c'est reconduire l'expérience esthétique à sa source vitale, organique et biologique. En toute rigueur, il nous faut parler de santé esthétique comme on parle de santé mentale ou de santé physique. Et réjouissez-vous, pour une fois que l'ivresse et l'excès sont recommandés, alors n'oubliez pas, l'abus d'œuvres d'art n'est pas dangereux pour votre santé.
Merci Nassim El Kabli. Nos émissions peuvent être réécoutées en podcast. Cette émission a été réalisée par Riyad Kera avec à la technique Marie-Claire Oumabadi. Elle a été préparée en particulier par Carla Michel et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Nassim El Kabli, Corinne Amar et Victoire Mellet. Vous êtes bien sur France Culture, vive la curiosité.